De retour après cette brève pause, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Chad Gagnon. Bonjour Chad, comment allez-vous?
Bonjour, je vais bien, merci.
Vous êtes développeur web et vous avez votre propre entreprise qui s'appelle EcloWeb, E-K-L-O-W-E-B. Et vous êtes la vedette ou vous êtes une des personnes mises de l'avant dans une capsule que le RAM, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, a mis récemment en ligne. Et cette capsule qui s'appelle Web, conjugué design et accessibilité, est elle-même tirée d'une vidéo qui va plus en profondeur sur le sujet, aussi sur le site du RAM qui s'appelle un site Web accessible, c'est bon pour tout le monde. Alors voilà, le décor est posé, M. Gagnon. On va parler d'accessibilité et comment créer un site Web qui puisse être facile à naviguer, qui puisse être accessible à tous. Quelle que soit notre situation par rapport à l'Internet et à son accessibilité. C'est quoi les critères d'un bon site pour qu'une personne handicapée visuelle puisse s'y retrouver?
En fait, il y a beaucoup de critères à regarder parce que, dans le fond, c'est ça, c'est dans toutes les étapes d'un projet de conception de site web, c'est ça, il y a des choses à valider en cours de route. Ça peut passer quand on commence à travailler les contenus, l'arborescence. Ensuite, ça peut toucher les maquettes visuelles. Fait que quand on va créer les maquettes visuelles, on va s'assurer de respecter un niveau de contraste. Donc maintenant, il y a des outils là, qui permettent d'évaluer les contrastes entre, par exemple, deux couleurs. Donc, on veut que le texte soit bien lisible, s'il est sur fond foncé ou fond clair. Donc, on va choisir des couleurs en conséquence.
Adéquate. C'est vrai que des fois, on voit des sites où c'est écrit en bleu pâle sur fond gris. C'est peut-être
exact.
Joli, mais c'est pas facile à lire.
Exactement. Des fois, même une espèce de gris sur fond blanc, là, souvent, ça va poser, même si des fois, ça passe un niveau de contraste, la majorité des utilisateurs vont avoir la difficulté à lire le texte. Là. Le gris pose souvent problème là, quand c'est utilisé sur du texte. Puis c'est ça, il y a d'autres trucs qu'on peut regarder plus en profondeur aussi au niveau des couleurs. Maintenant, il y a des outils qui nous permettent d'évaluer comment les personnes daltoniennes vont voir les couleurs, donc on est capable de voir s'il y a une bonne distinction en chaque couleur là, de notre gamme de couleurs. Donc voilà. Fait qu'au niveau du design, au niveau des couleurs, c'est ça qu'on va regarder. Puis on va aussi s'assurer de positionner tous les éléments dans un ordre logique, autant pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi pour, par exemple, quelqu'un qui utilise une synthèse vocale, un lecteur d'écran, il va naviguer dans la page de façon plus linéaire. Donc, c'est important que chaque élément de contenu soit dans un ordre logique.
Puis, il y a souvent aussi d'autres endroits où ça accroche, que ce soit la description des images ou parfois même il y a une image, mais on ignore de quoi il s'agit. Et l'image doit nous indiquer qu'on va cliquer là-dessus puis on va parler de service parce que sur la petite photo, on voit quelqu'un qui rend service. Où ça va parler d'une autre fonction hein, ou d'un autre aspect de l'entité dont c'est le site. Mais nous, on ne reconnaît pas l'image. On ne sait pas que c'est quelqu'un qui serre la main. On ne peut pas savoir qu'il s'agit de l'accueil ou du service à la clientèle. On ne voit pas qu'il y a un mécanicien.
Oui, exactement. Mais c'est ça, dans tout le processus, il faut s'assurer justement de ne pas communiquer d'informations importantes à partir d'icônes ou d'images ou même de couleurs. Tu sais, des fois, on va utiliser le rouge pour dire
stop.
Ça, c'est important ou c'est une erreur ou des choses comme ça. Donc, il faut tout le temps avoir un mécanisme secondaire. Par exemple, quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran ou quelqu'un qui a le rouge, lui, il ne voit pas nécessairement du rouge. C'est ça, fait que c'est important d'utiliser des mécanismes secondaires. Puis c'est ça, pour les icônes ou les images, il y a possibilité dans le développement de mettre en arrière-plan là, des descriptions textuelles. Donc, quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran va pouvoir savoir de quoi il s'agit. Voilà.
On parle d'images qui ne sont pas décrites et ça me fait penser à ce terrible obstacle qui sont les CAPTCHA.
Mm-hmm.
Où on veut déterminer que nous ne sommes pas un des robots, alors il faut être capable de cliquer sur les images où il y a une borne fontaine ou un pont, quelque chose comme ça, puis c'est vraiment impossible à naviguer avec un handicap visuel.
Ouais, les captchas, c'est vraiment une difficulté vraiment, vraiment importante là, pour quelqu'un qui utilise une synthèse vocale. Il y a des techniques qui sont en train d'évoluer un peu à ce niveau-là. Des fois, on a des captchas qu'on appelle invisibles, donc l'utilisateur n'a rien à faire. C'est comme Google là, ont développé ça. Là, c'est ils utilisent comme le comportement de l'utilisateur pour valider que c'est pas un robot et non.
Ah, d'accord. Comme une sorte d'intelligence artificielle.
Oui, exactement. Donc, on espère que ça va aller dans ce sens-là, mais c'est sûr qu'il y a toujours des pirates informatiques qui sont capables de simuler quand même là, que c'est un comportement réel. Sinon, il y avait d'autres alternatives de catch-up où on entendait, mais de façon brouillée, les caractères à inscrire. Mais ça, encore une fois, c'est tellement dur à entendre.
Parfois aussi dans des outils avec une synthèse vocale qui fait la lecture de l'écran, pendant qu'on entend la trame sonore du CAPTCHA audio, en même temps, notre synthèse fait encore la lecture du cadre.
Ouais.
Alors, on entend deux voix à la fois, ça devient difficile.
Oui, exactement. Donc, c'est tellement pas l'idéal. Vraiment, l'idéal actuellement, là, c'est le genre de CAPTCHA invisible, mais ça, c'est pas les plus sécuritaires encore aujourd'hui, mais quand même, ça ajoute la couche de sécurité, je crois qu'il faut, puis au moins, il n'y a pas de limitation fonctionnelle là, à ce niveau-là.
Je pense aussi que c'est important d'avoir un site qui peut fonctionner sans souris.
Oui, exactement. Dans l'accessibilité, dans le fond, c'est un critère. Là. On s'assure aussi qu'au clavier, si on parcourt tous les éléments, soit avec table ou les flèches du clavier, si on utilise une synthèse vocale, chaque élément là, peut être parcouru, puis la visibilité du focus. Donc, on voit clairement là, qu'on passe d'élément en élément. Donc, il faut que chaque élément... dans le fond, au moment qu'on développe le design, quand on parle d'accessibilité, on va vraiment prévoir des états de survol pour chacun des éléments pour vraiment s'assurer que l'utilisateur, quand il navigue avec le clavier, il sait où est-ce qu'il est rendu. Puis, on voit clairement là, le déplacement du focus, justement.
Parce que parfois aussi, on a encore suffisamment de résidus visuels où on peut se servir à l'occasion d'une souris. Mais là, si par mégarde, on l'a déplacé sur quelque chose, puis ça fait réagir tout de suite un pop-up ou un menu, là, la situation se complique, se complique rapidement. Est-ce que maintenant les sites web... vous, dans à votre entreprise, étant donné votre formation, puis vous avez été à l'INLB dans une vie antérieure, alors vous êtes très au fait des problèmes d'accessibilité. Mais est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que vous voyez qui sort comme nouveau site semble se rapprocher davantage d'une accessibilité universelle?
Moi, depuis que je travaille en accessibilité, je vois beaucoup d'améliorations dans le milieu. Par contre, il y a certains sites plus importants, on pense d'institutions financières, des choses comme ça. Là, il y a eu des évaluations là, des sites gouvernementaux aussi. Eux, ils tirent de l'arrière, malheureusement. Mais c'est ça, dans le domaine, en fait, avant quand on parlait d'accessibilité à d'autres développeurs, ils ne savaient pas de quoi on parlait. C'était très, 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 très niche. Mais maintenant, en tant que développeur, quand on utilise des outils, je veux dire, comme mettons un carousel d'image ou un lecteur vidéo, des choses comme ça, avant, il fallait vraiment le faire de A à Z parce que ça n'existait pas des lecteurs vidéo accessibles ou des choses comme ça. Aujourd'hui, la majorité des outils populaires sur le web, ils ont des sections accessibilité, puis ils en parlent, puis ils mettent des bonnes pratiques en place. Donc ça, c'est encourageant dans le fond pour l'avenir parce que c'est ça, les nouvelles techniques web, les nouvelles technologies, là, l'accessibilité est quand même réfléchie là, maintenant, contrairement à avant où est-ce que c'était
après s'il y avait suffisamment de plaintes, on faisait quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est possible de prendre un site déjà existant et de le réinitialiser ou de le rendre accessible, ou est-ce qu'il faut à chaque fois recommencer à zéro?
Ça va dépendre des cas. C'est très difficile à évaluer. Dans le fond, souvent, quand on veut rendre un site web déjà actif, accessible, on va faire une petite évaluation pour voir comment il a été fait dès le départ. Des fois, les développeurs ont utilisé des bonnes pratiques, puis le rendre accessible, c'est moins d'efforts. Mais des fois, c'est vraiment plus complexe de le rendre accessible de la manière qui a été fait. Donc, c'est mieux de... Ça va vraiment dépendre des cas, mais c'est sûr que quand on parle de site web accessible, c'est toujours mieux de le penser dès le départ, comme je disais tout à l'heure, là, et quand on démarre le projet, il faut que l'accessibilité soit sur la table. Puis quand on rédige les contenus, quand on fait le design, quand on programme le site, parce que c'est ça, si on y va dans une deuxième phase, c'est beaucoup plus de temps investi et beaucoup plus de sous là, à mettre en place.
Parce que on peut comprendre, mettons, une entreprise ou une institution qui a déjà un site qui existe, qui a qui présente une image qui est celle que l'entité souhaite projeter vers le public. Et là, de dire on va recommencer à zéro, c'est peut-être pas ce qui est l'idée la plus populaire autour de la table. Alors, c'est quand même possible de récupérer au vol, mais c'est comme autre chose, c'est mettre. C'est mettre une patch. Voilà.
Ouais, ben on peut. En fait, c'est ça. C'est soit que ça va être patché ou carrément on vient le refactorer là, vraiment de la bonne façon, mais c'est ça. Ça demande quand même pas mal plus d'efforts parce qu'il faut déjà voir comment il a été fait, évaluer tous les problèmes d'accessibilité parce qu'ils n'ont pas été notés dès le départ. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements au niveau du design parce que les couleurs ont mal été choisies ou le positionnement des éléments n'ont pas été bien réfléchis. Donc, tu sais, ça vient toucher à la structure du site. Donc, des fois, ça peut, dépendamment de l'ampleur des sites, des fois, ça peut être assez costaud comme effort.
Oui, puis c'est peut-être pour ça aussi que souvent, c'est curieusement, ce sont des grandes entités comme des services gouvernementaux ou des institutions financières qui sont à la traîne. Parce qu'ils ont des sites qui ne sont pas suffisamment, qui ne sont pas accessibles. Et pour la majorité d'entre nous avec handicap visuel, et puis pour eux, pour ces entités-là, de recommencer à zéro, là, c'est comme on leur demande de reconstruire la maison et ça les rebute un peu.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est que souvent, il y a tellement eu d'efforts pour concevoir ce qu'ils ont conçu que de le refaire à zéro, c'est un peu inconcevable pour eux, mais en même temps, c'est ça, s'ils l'avaient pris dès le départ.
Ça serait pas comme ça, voilà. Ça arrive tellement souvent parce qu'il y a une réglementation puis il y a des obligations d'être accessible. Mais quand on a une réglementation, il faut avoir aussi des moyens coercitifs pour les appliquer. Alors, pour l'instant, si une entité a un site qui n'est pas accessible, il n'y a personne qui se fait taper sur les doigts. Ça vient comme par une pression des usagers à la longue.
Exactement.
Voilà. Monsieur Gagnon, merci. On espère que des développeurs de sites web nous écoutent et qui vont adopter les bonnes pratiques. Et aussi, on espère que dans les cours qui se donnent, la formation pour les futurs développeurs, évidemment que l'accessibilité soit un sujet important.
Effectivement, on le souhaite.
Merci.
Merci beaucoup.